Bienvenue dans l'émission des Revancheurs.
Ici, on en a marre d'être jugé. On veut exister et être considéré comme normal.
Le handicap invisible existe, la stigmatisation aussi.
Nous aussi, on existe.
On est 11 personnes envoyées par Pôle emploi et la mission locale d'Arras.
Dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.
En collaboration avec Radio PFM.
Nous avons passé 3 jours à créer une émission et interviewer des professionnels sur la thématique de l'emploi.
Pour cela, nous nous sommes rendus dans les rues et les commerces d'Arras et nous avons rencontré
une agence de l'événementiel, une crèche de commerce, de vente et de restauration.
Nous nous sommes rendus dans une enseigne Edisac. Nous avons pu avoir une interview d'une vendeuse qui travaille sur le site.
Depuis quand vous exercez ce métier en tant que vendeuse?
Alors maintenant, ça va faire à peu près 2 ans que je suis vendeuse ici.
Et vous avez fait des études, vous avez un parcours un peu particulier quand vous avez voulu ce poste ou pas?
Oui, alors en fait, moi j'ai commencé par faire un master en langue étrangère. Et c'est vrai qu'après après mon master, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un emploi et je suis tombée ici par hasard en tant que vendeuse.
Vous avez combien de salariés ici?
Alors ici sur la boutique d'Arras, on a 3 salariés et ensuite on a des alternantes.
Vous connaissez l'histoire de l'entreprise Edisac ou pas?
Oui, alors en fait, quand on arrive ici, forcément, on a toute la présentation du magasin. Donc Edisac, c'est une chaîne en fait qui est originaire du Nord-Pas-de-Calais, donc assez locale. Et après, voilà, ça a débuté sur les marchés. Et ensuite, la famille a développé son entreprise jusqu'à avoir plusieurs magasins dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique.
Vous pensez quoi à vos compétences professionnelles pour ce poste?
Alors en fait, c'est vrai que je suis arrivée, j'étais nouvelle, je connaissais pas forcément le métier parce que j'ai pas étudié en tant que vendeuse, mais en fait, on apprend sur le tas, hein, au fur et à mesure des jours, on apprend des choses et après, mais au bout d'un an, je sais qu'on est bien rodé.
Comment vous sentez-vous dans votre emploi aujourd'hui?
Alors je me sens bien, surtout qu'en fait on a une très bonne équipe entre nous et puis même sur Arras on a une bonne clientèle et voilà, ça fait plaisir et c'est toujours un monde qui me plaît, donc je suis bien.
Merci beaucoup pour cette interview.
Bonjour, du coup moi je suis auxiliaire de puériculture et référente technique sur la crèche ici même. Mes missions, j'ai une partie sur le terrain, donc la partie où on accueille les enfants sur la journée. On participe au développement, aux compétences d'évolution pour les enfants. On s'occupe des activités, on fait des sorties, il y a la partie soins, hygiène et confort auprès des enfants. Et j'ai une partie aussi dans le bureau, donc tout ce qui est administratif, les commandes, le relationnel avec les parents, les inscriptions.
Globalement, est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse depuis longtemps?
Oui, du coup, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours été attirée par le milieu de la petite enfance. Donc, j'ai fait un bac pro ASSP donc dans la petite enfance. Et je me suis dirigée naturellement vers ce milieu-là. Donc, d'abord, quelques années en section. Et là, j'ai pu évoluer depuis peu en faisant de la section et de la direction.
L'agence Alentour Organisation, qui ici installée à Arras, c'est une agence de communication événementielle. Ça veut dire qu'on travaille sur des événements que nous n'organisons pas forcément, mais pour lesquels il y a des partenaires qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin d'être vus, qui ont besoin de faire de la promotion. Et nous, on représente donc ces partenaires, on leur montre l'opération, on organise l'opération pour eux, afin qu'ils aient de la visibilité sur les événements sur lesquels ils sont partenaires. Puis la deuxième partie, c'est qu'on organise des événements pour des entreprises, que ce soit des congrès, des soirées, des anniversaires, des conventions. Donc l'entreprise a besoin d'organiser un événement, soit pour l'interne, ses salariés, soit pour l'externe, ses clients ou ses fournisseurs. Et pour l'organisation de ces manifestations-là, de cet événement interne, ils font appel à nous et on organise cela. Donc c'est-à-dire que notre métier est vraiment centré sur les événements grand public ou événements d'entreprise.
Là, j'ai vu que vous aviez notamment participé à la caravane du Tour de France. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact et comment ça fonctionne globalement ?
Alors, comment on est rentré en contact ? Ça fait très longtemps, puisque l'agence a été créée en 1992 et auparavant, je travaillais au journal Le Parisien, qui fait partie du même groupe que le Tour de France, enfin, qui faisait partie du même groupe que le Tour de France. Donc, c'est comme ça qu'on en est rentré en contact. Et aujourd'hui, au fur et à mesure des années, ben, pour des partenaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour des partenaires donc, de l'événement, des partenaires du Tour de France, des entreprises qui signent un contrat pour être présents sur le Tour, nous organisons leur présence sur le parcours de l'événement.
Est-ce que ça fait depuis très longtemps que vous envisagez de faire ça, ou est-ce que vous êtes tombé un peu par hasard dedans ?
Non, à la fois, c'était un domaine qui m'intéressait, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé que c'était un domaine dans lequel je prenais beaucoup de plaisir. Et c'est un métier de passion. Hein. Je dis souvent aux gens qui arrivent dans ce métier, si vous voulez gagner de l'argent, faites plutôt gastro-entérologue, parce que vous gagnerez plus de sous que de faire de l'événementiel. Mais c'est pas un métier qui permet de gagner le plus d'argent, certainement, mais c'est certainement le métier qui vous procure, c'est parmi les métiers qui vous procurent le plus de plaisir, encore une fois, si ce métier vous passionne.
Bonjour, notre interview se passe aujourd'hui avec le patron du café Le Tabac Flash.
Quelles sont vos qualifications ?
On est obligé d'avoir une formation, comment dire, au niveau hygiène, sanitaire, au niveau du tabac, une formation obligatoire, voilà.
Quelles heures faites-vous ?
7h, 20h.
Je vais vous poser une petite question piège. Alors maintenant, vous faites face à un client qui est alcoolisé, qui est agressif, qui cherche un peu la bagarre avec les autres clients. Comment réagissez-vous ?
Bah écoutez, je le mets dehors, je lui dis, j'arrête de lui donner à boire.
Allumer le feu de Johnny Hallyday, parce que c'est l'antidépresseur de Clara.
Vive Johnny !
Doucement, Clara, repose cette chaise, doucement. Au fait, Victor, on n'avait pas d'autres interviews en stack ?
Oui, oui, nous avons aussi reçu des professionnels en studio pour les interroger sur leur métier.
Aujourd'hui, nous sommes en présence de Maude Carpentier, qui est coordinatrice des ressources humaines de Pas-de-Calais Habitat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel?
J'ai commencé par un BEP carrière sanitaire et sociale, il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années. J'ai continué un bac professionnel ST2S et j'ai ensuite poursuivi mes études en alternance avec un BTS SP3S, donc toujours dans la santé et dans le social. Et ensuite, j'ai continué en licence gestion des ressources humaines, en alternance toujours. Et j'ai fini par le master, toujours dans le domaine des ressources humaines, toujours en alternance.
Quelle est l'importance de votre poste chez Pas-de-Calais Habitat ?
Mon poste chez Pas-de-Calais Habitat, coordinatrice des ressources humaines, consiste notamment à organiser les stages. Nous recevons beaucoup de stages chez Pas-de-Calais Habitat qui vont des stages de 3e, les stages découvertes, jusqu'au stage longue durée des masters par exemple, dans tous les domaines et dans tous les métiers de Pas-de-Calais Habitat, donc aussi bien agent de proximité, gardien, que des postes administratifs dans les bureaux. Je m'occupe aussi de la partie recrutement interne et externe. Je m'occupe également des relations école et partenaires. Je suis présente sur les forums emploi, les forums alternance, pour développer le partenariat et recruter les futurs collaborateurs de Podcal Habitat.
Pourquoi ce métier en lui-même, alors que peut-être aussi d'autres métiers, enfin d'autres postes auraient pu vous correspondre, pourquoi avoir fait ce choix-là ?
Parce que j'aime beaucoup la partie relationnelle qu'on peut trouver dans les ressources humaines. La partie challenge aussi, parce que c'est un challenge de pouvoir recruter les collaborateurs qui travailleront avec nous demain. Et c'est ce qui m'anime, c'est que ça bouge tout le temps en fait. On est toujours à la recherche du candidat idéal qui pourra correspondre à nos attentes et aussi du candidat qui pourra s'épanouir au sein de Podcal Habitat. Voilà, c'est vraiment le relationnel qu'on peut trouver dans ce métier, le challenge, et puis pouvoir développer aussi les partenariats. C'est super intéressant de partir en forum, rencontrer des jeunes, des candidats.
Avez-vous rencontré des difficultés concernant votre poste ?
Alors non, en fait, il n'y a pas vraiment de difficultés, hormis le timing des recrutements, en fait. On a un besoin à l'instant T. Il faut pouvoir l'anticiper. C'est un travail d'équipe et on fonctionne très bien tous les quatre avec notre responsable également.
Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour pouvoir répondre à nos questions et ravie de vous avoir parmi nous.
Bah, merci beaucoup, avec plaisir.
Nous sommes avec Alexandra Labourel, graphiste multimédia et web, ayant fondé le studio Comambule. Bonjour à vous.
Bonjour.
Quel était votre parcours scolairement parlant et ensuite ?
Alors, moi, j'ai fait un master du spectacle une licence et un master du spectacle à la fac d'Arras. Avant d'être animatrice périscolaire, un peu pour par goût pour les enfants, mais pour remplir un peu le frigo, faut se l'avouer. Donc, fin 2019, j'ai commencé à regarder pour me convertir en design graphique dans la communication. Donc. Et puis en 2020, confinement. Donc, je me suis dit, puisque je ne peux plus travailler, je vais travailler à ma reconversion. J'ai eu la chance à ce moment-là d'être en CDI, en petit CDI, en complément de salaire, ce qui m'a permis en fait, de pouvoir bénéficier du dispositif Transition Pro, qui est un dispositif pour les salariés qui souhaitent se reconvertir, donc faire prendre un congé formation et faire une reconversion professionnelle. Et si votre dossier est accepté, en fait, on vous finance la formation, le maintien de salaire. Et moi, j'ai pu bénéficier aussi du transport.
Concernant le graphisme, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à choisir précisément ce domaine ou c'est tombé comme ça
Je suis assez créative et voilà, j'ai fait du spectacle avant, c'est parce que je suis quelqu'un de créatif et je suis quelqu'un qui aime communiquer aussi. Et voilà, moi, il fallait un boulot dans la continuité finalement de ce que j'avais déjà fait, parce qu'en fait, dans mes stages d'art du spectacle, je suis partie sur des stages dans des structures théâtrales. Au sein de ces structures, j'ai en fait fait, sans le savoir ou sans vraiment me rendre compte, pas mal de graphisme. Et c'est ce qui m'avait plu le plus, en fait, ça, plus le fait d'aller, d'aller au contact des gens, etc., de monter des dossiers, de faire des trucs. Pour exemple, j'avais fait une affiche sur le premier stage que j'avais fait une affiche. On avait fait des vidéos, des choses comme ça. Donc déjà, c'était un peu dans le... Je mettais un peu les mains dans le cambouis, mais sans le savoir. Donc je me suis dit, pourquoi pas, quoi.
Est-ce qu'il faut forcément savoir dessiner pour se lancer dans le graphisme ou est-ce que quelqu'un comme moi qui ai fait de la photo et qui maîtrise des outils comme Photoshop ou des logiciels Adobe, c'est...
Alors j'ai un de mes profs qui vous a dit les meilleurs graphistes ne sont pas forcément ceux qui savent dessiner. Lui, il ne sait pas dessiner, il fait des bonhommes bâtons, mais par contre, il sort des super trucs, il est spécialisé dans le lettrage, dans la typographie et même en design graphique pur et dur, enfin... Ouais, c'est un plus de savoir dessiner, mais si tu maîtrises les logiciels, enfin je veux dire sur le logiciel, sur Illustrator ou comme ça, qui est un logiciel de la suite Adobe qu'on utilise pour le graphisme, si tu lui demandes de faire un trait, il te fait un trait, quoi.
Concernant des gens qui voudraient par exemple se lancer dans le graphisme, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour se lancer justement ?
Je vais donner les conseils qu'on m'a déjà donné et puis c'est faire son œil graphique, faire sa culture graphique. Donc il faut aller regarder des graphismes, il faut aller se renseigner. Et puis après j'ai acheté des bouquins, l'histoire du graphisme, History of Graphic Design. Et demander, voire aller voir d'autres graphistes, puis s'inspirer de ce qu'on aime bien. dessiner si on sait dessiner.
Est-ce que vous avez, vous en général, vous avez d'autres projets en cours en ce moment?
Mon projet principal, donc c'est le studio comme en bulle. Donc j'ai commencé le projet en fin d'année dernière. Je commençais déjà à y réfléchir, à faire 2-3 ateliers avec Pôle emploi justement. J'ai fait le Active Créa, qui aide en fait les créateurs d'entreprises à créer leur entreprise et à la développer. J'ai fait tout ce qui était plan de financement, comment j'allais monter, qui allait être mes clients, etc. Donc j'ai passé la certification entrepreneur. Mais ça, c'est un choix de ma part, c'est parce que j'y connaissais rien dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai débarqué là, j'ai dit, moi, si je fais ça, faut qu'on m'apprenne, hein, parce que... voilà. Et puis ça s'apprend de jour en jour. Et voilà, je suis arrivée jusqu'au mois de juin où je suis rentrée, j'ai intégré la couveuse entreprise de la BGE, ça s'appelle Incubatest, où en fait ça me permet là, de tester mon activité pendant un an, voire plus. Enfin, le contrat, c'est un contrat CAPE, donc contrat d'appui au projet entrepreneurial. Et voilà, donc je suis depuis le mois de juin, donc je teste cette activité-là pour savoir en fait si ça va marcher au bout. On est accompagnés tous les mois, en fait, tous les mois on a des rendez-vous coaching. Savoir où vous en êtes où, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous avez une difficulté, vous n'y arrivez pas. On est intégré aussi s'il y a des séminaires ou des rencontres d'entrepreneurs. Et voilà, mon projet, du coup, c'est ça, c'est de faire monter le studio. Et déjà, ce serait déjà un gros projet.
Oui, c'est sûr. Eh bien, merci à vous pour vos réponses aux questions. Et puis, c'était un plaisir. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare, sono un italiano. C'était Maud de Pas-de-Calais Habitat et Alexandra, graphiste. Rendez-vous maintenant en Italie.
Alors bonjour, nous sommes chez Italian Trattoria à Arras. Donc je suis Jeanne Dumont, je suis directrice et associée de l'établissement. Nous avons ouvert il y a 2 semaines. Les fondateurs sont d'origine calabraise, c'est le sud de l'Italie. C'est un concept de restauration rapide, c'est une chaîne de restauration italienne. Il y a une soixantaine d'établissements partout en France et c'est le premier à Arras. On essaye d'accueillir les clients en parlant italien, donc c'est pour dire bonjour, au revoir, merci, des mots un petit peu basiques qu'on essaye de transmettre à nos employés. Alors si certains parlent italien, c'est encore mieux, mais on essaye au moins de dire buongiorno, benvenuti, etc. pour donner un petit peu de chaleur et amener les clients en Italie. Alors depuis l'ouverture, on est agréablement surpris. On est content parce qu'on a des clients qui sont réguliers et enfin, en tout cas qui pour 2 semaines viennent assez souvent. On a du monde, donc c'est chouette. On a une équipe qui est composée de 20 personnes environ. On espère que ça continuera comme ça parce qu'on est très content pour le moment.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup, ciao.
Bonjour, je m'appelle Imad, je suis chef de cuisine au restaurant Wolfoni Arras. Parler un peu de mon métier, c'est un métier assez compliqué. Il faut essayer de mettre votre vie privée de côté. Parce que dans un métier, on est présent à peu près de 9h, des fois jusqu'à minuit. Tout ce qui est fait, et week-end et tout, il faut oublier. Donc si on aime notre métier, on sacrifie un peu notre vie privée pour le métier. Voilà.
L'affluence, la journée, le soir, est-ce que vous arrivez à gérer? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde?
Ça demande un peu de la force, à part physique. Il faut avoir la force psychique aussi. Mais non, on est habitué. Donc c'est selon l'expérience que tu as dans le métier. Au début, c'est un peu dur. Mais dans la durée, ça devient une habitude.
Ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine-là ou... Est-ce que ça fait longtemps que vous vouliez faire ça ou vous êtes tombé dedans par hasard?
Ça fait toujours plaisir de me poser cette question-là parce qu'au début, je suis tombé dans ce métier-là par hasard. Au début, j'aimais bien tout ce qui est informatique, mais j'avais un de mes amis qui a voulu tester la cuisine. Donc j'ai testé, je suis tombé amoureux de ce métier-là. Et à un moment, j'avais des doutes, donc j'ai essayé de refaire l'informatique. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté et je savais que c'était le bon chemin pour moi.
Bonjour, alors moi c'est complètement différent. Donc je suis en salle, responsable de salle. Donc moi je vais gérer les équipes en salle, donc les personnes, les employés qui vont servir les clients. Je gère également aussi quand il y a des problèmes avec les clients. Je fais aussi du service, j'envoie les plats, les boissons. En gros, je gère également avec Imad la coordination entre la salle et la cuisine.
Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire assez facilement? Est-ce que c'est compliqué à gérer certaines journées ou est-ce que ça va?
Ça peut être compliqué certaines journées, notamment quand on peut faire plus de 200 couverts sur un service et qu'il y a quelques couacs, ça peut être compliqué à gérer. Sinon, dans l'ensemble, c'est facile. Je pense qu'il faut avoir aussi le caractère pour travailler dans la restauration. Il faut que ce soit un métier passion. Parce que comme mon collègue Imada dit, on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés. Donc, faut vraiment aimer ce métier. Mais sinon, ouais, c'est... Je pense qu'une fois qu'il y a une bonne ambiance au sein du restaurant, ça le fait.
Ça fait longtemps que vous êtes dedans. Est-ce que vous êtes tombé dedans par hasard?
Moi, je suis tombée dedans un peu par hasard. Avant d'être dans la restauration, j'étais dans le secrétariat, le droit. J'ai un peu fait pas mal de choses. Après, ouais, je suis tombée dans la restauration un peu par hasard. Et comme je vous ai dit, ça m'a plu. C'est devenu un métier passion. Et c'est très prenant. Mais c'est très, très bien aussi. Et ouais, faut être fort physiquement, mentalement. Faut savoir résister, quoi.
Merci à vous deux pour vos réponses.
Nous venons d'écouter No Care de Daughter.
Pour finir cette émission, nous avons pris le temps de rencontrer
Pierre du Légendarium, Ben Arthur, éducateur à la vie active, et Michael de Janus Intérim.
Nous sommes une agence de travail temporaire d'insertion. Nous dépendons du groupe Vitamine T qui comprend 30 filiales et Janus est d'une des filiales du groupe Vitamine T, en sachant que le groupe Vitamine T, c'est le premier groupe d'inclusion en France.
Est-ce que vous avez des spécialités de travail ou à proposer aux personnes ou est-ce que c'est plus généraliste?
Nous sommes généralistes, effectivement, nous travaillons dans tous les secteurs d'activité, bâtiments, logistique, tertiaire, industrie. Donc voilà, nous sommes une agence de travail temporaire classique d'insertion, mais on porte le contrat de travail temporaire de façon classique, effectivement, avec des missions d'une semaine, 15 jours, un mois, deux mois, six mois, 10 mois. Donc, et le but, c'est de réinsérer les personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. Et on a un public, effectivement, spécifique, des jeunes de moins de 26 ans, des demandeurs d'emploi de longue durée, des personnes qui ont une reconnaissance handicapée, travailleurs handicapés, avec différents critères que je ne vais pas tout vous énumérer, sinon on va y passer l'après-midi.
Est-ce que ça fait longtemps que vous envisagez de faire ça ou est-ce que vous êtes tombé dedans par hasard et...
Alors, tombé dedans par hasard, non. Ça fait quelques années, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille sur le travail temporaire. Et je me suis rapproché effectivement de l'insertion parce que ça me parlait. Et dans mon parcours, effectivement, ça me paraissait évident d'aller chercher des personnes qui sont un peu plus éloignées, de leur tendre la main pour trouver un emploi.
Merci à vous pour vos réponses.
Bonjour, je suis Arthur, je suis en troisième année d'éducateur spécialisé à la Fertès et je suis au sein du club des préventions de la vie active d'Arras.
Benham Arnasser, je suis éducateur spécialisé au club de prévention de la vie active.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
C'est un métier qui correspond à mes valeurs, à ce que je suis, à ce que j'ai envie d'être, c'est-à-dire d'accompagner des personnes dans leurs projets pour que les personnes puissent évoluer aussi, avancer dans leur parcours. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier. C'est une véritable vocation, en fait.
Moi, c'est vrai qu'en fait, c'est ce qui est le côté d'aider mon prochain. C'est le fait de faire partie d'un édifice qui est dans l'accompagnement et d'être comme le colibri qui fait sa part. C'est vraiment plus une vocation. On ne fait pas ça par hasard ni pour l'argent. C'est vraiment quelque chose qui doit être au niveau des valeurs, au niveau des envies profondes.
Et quels sont les débouchés pour ce métier ?
Bah, les débouchés, c'est être éducateur dans les foyers, en fait, hein, ou en club de prévention, comme nous. Donc on appelle ça milieu ouvert, hein, parce qu'on est sur l'extérieur. Après, il y a quoi? Il y a tous les établissements médico-sociaux.
Il y a plusieurs champs, en fait. Il va y avoir le champ du handicap, donc tout ce qui va être établissements médico-sociaux, comme les IME, les ESAT. Il va y avoir le champ de tout ce qui est exclusion, donc ça peut être les personnes sans abri. Et il y a protection de l'enfance, comme milieu ouvert, comme on fait nous, les mesures d'AMO, d'assistance éducative en milieu ouvert. Et il y a tout ce qui va être en foyer, en structure où c'est du collectif, de l'hébergement pour les jeunes de 12 à 21 ans.
Comment se faire respecter et passer super bien avec les ados?
Respecter, bah déjà, il faut respecter l'autre, déjà, respecter les autres. Déjà, être soi-même, être authentique, être simple. Pas vouloir être au-dessus de l'autre, imposer à l'autre. Alors, quand je dis l'autre, ça peut être les autres, hein, les jeunes, les moins jeunes, enfin les personnes qu'on accompagne aussi. Mais c'est surtout respecter son entourage et respecter la personne qu'on accompagne. Et le respect va revenir à l'inverse. En tout cas, on parlera vraiment de notion de respect à partir de là, quoi.
Parce que s'il y a des problèmes, vous faites comment?
Nous, notre rôle, on est éducateur. Dans éducateur, il y a le mot éduquer. Donc on est là aussi pour poser un cadre. Si on est en activité avec des jeunes et qu'ils ne respectent pas les règles, charge à nous de poser le cadre, de rappeler les règles et de montrer que nous sommes l'adulte référent et qu'il faut suivre les règles qu'on a proposées au groupe. Ça, c'est notre rôle. On peut être aussi dans une relation très amicale avec le jeune ou les familles, mais à un moment donné, s'il faut poser le cadre, on le fera. Et le respect va passer par là aussi.
Comment travaillez-vous sur vos projets, c'est-à-dire les sorties, voyages, activités? Comment ça se passe?
Selon ce qu'on repère, s'il y a des demandes, par exemple des demandes des parents, des demandes de jeunes, ou si on a repéré qu'il manquait quelque chose, on essaie de construire un projet avec un groupe de jeunes ou en individuel. Mais ça passe par un échange d'abord avec les collègues et un constat de terrain. Puis ensuite, on fait une proposition à notre responsable et puis on essaie de monter une action. Récemment, on a pu partir en Normandie avec un groupe de jeunes filles. C'est un groupe de jeunes filles qu'on avait emmené au devoir pendant plusieurs mois. Donc c'est parti sur une discussion, un constat. Et ensuite, on a créé le projet avec notre équipe et avec les jeunes. Et on a pu partir quelques jours visiter les plages historiques, les plages de Normandie, notamment les musées liés à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et tout ça est parti d'un constat et une demande de jeunes aussi.
Sur les projets d'activité, c'est pareil, en fait, ça va être si on repère des besoins chez certains jeunes et travailler autour, en fait, sur un aspect éducatif. Par exemple, je sais qu'on va faire ici des ateliers pâtisserie, des ateliers jeux de société, là, je vais faire des ateliers théâtre. Ça peut être une proposition des jeunes, en fait, qui vont eux-mêmes avoir une idée et puis on va s'appuyer sur leurs demandes. On peut être aussi force de proposition et quand on décèle un besoin, quel qu'il soit, on peut travailler autour sur cet axe-là.
Arras, c'est avant tout une ville de cœur, hein, globalement, que je connais très bien, vu que j'ai passé une grosse partie de mon enfance sur Arras. Il y avait effectivement pas mal d'opportunités, avec notamment l'ancien festival de l'imaginaire à Trébassia. Puis on s'est dit, pourquoi pas, ouvrir une boutique de l'imaginaire, sachant qu'il y a un public qui s'est développé aussi bien avec l'ascension, on va dire, des grandes trilogies de films, les séries, ou encore sur le jeu vidéo aussi, sur le fait qu'on est sur une période où ton geek n'a jamais été aussi chic, globalement. Il y avait un petit peu ce besoin de créer quelque chose de lieu de vie où on pourrait simplement échanger sur nos littératures préférées, mais également aussi permettre aux vieux briscards comme aux néophytes de sentir un peu comme à la maison.
Au niveau de la clientèle, ça s'est arrivé relativement facilement, sachant que sur Arras, il y a quand même deux grosses librairies déjà à la base qui vendaient aussi un peu de fantastique.
Avec les littératures de l'imaginaire, ça a toujours été un peu, on va dire, on va pas dire le parent pauvre des librairies, mais disons que ce n'est pas forcément ce qui a été mis en avant par effectivement des librairies plus généralistes. Et au contraire, les rayons ont plutôt tendance à se réduire un petit peu comme peau de chagrin. Il y avait un peu comme je disais tout à l'heure, un petit peu ce besoin, on va dire, de valoriser tout ça. La plupart, en tout cas, des lecteurs en parlaient aussi, de se dire que ça faisait du bien de voir quelque chose où on pouvait effectivement en parler et échanger autour effectivement de ce genre de littérature. On cherche aussi à valoriser aussi bien des auteurs locaux ou encore justement sur des plus petites maisons d'édition et sur de l'indépendant aussi, pour montrer que oui, il y a vraiment, on va dire, un certain vivier, et dans la région, mais également aussi énormément de formes sur lesquelles, on va dire, aborder notre partie.
Je suppose que le public a été réceptif à votre offre.
En tout cas, je l'espère. C'est vrai que je ne m'attendais pas, en tout cas, que l'aventure dure depuis maintenant 5 ans. Et les retours sont plutôt assez positifs. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a un public qui est vraiment très diversifié aussi. En tout cas, je peux aisément dire qu'on est sur un public de 7 à 99 ans à peu près, pour le coup, de tout horizon aussi. Et surtout, avec justement... une clientèle beaucoup plus large que le type de littérature laisse présager, en tout cas par rapport aux idées reçues dont on parlait tantôt.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Clémence,
Clémentine,
Léonard,
Antoine,
Gauthier,
Jean-François,
Clara,
Victor,
Lilian,
Apolline,
Georges.
Accrochez-vous.
Ne laissez pas les idiots vous dévaloriser.
Et à bientôt sur Radio PFM 99.9.